C'est l'heure du journal avec Mathieu Laurent. Bonjour Mathieu.
Bonjour Hervé et bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, la crise sanitaire en France et cette phrase du maire de Grigny dans l'Essonne. Nous sommes dans un moment de décrochage républicain. Philippe Rioux a signé, comme une centaine d'élus et associatifs des quartiers, une lettre ouverte adressée au chef de l'État, auquel il demande qu'1% du plan de relance revienne à ces territoires en souffrance. Orange empoche plus de 2 milliards d'euros au terme d'un très long contentieux fiscal. Décision du Conseil d'État rendue hier, explication d'Hélène Philly. L'opération Barkhane au Mali avec de nouvelles pertes infligées par les troupes françaises aux effectifs djihadistes, histoire de peser sur la reconfiguration politique en cours à Bamako, précision de Bertrand Galichet. Enfin, la bulle économique que nous entretient ce samedi de l'accord trouvé hier par les pays du G20 sur la dette des pays pauvres. C'est un lourd, très lourd contentieux fiscal qu'a tranché hier le Conseil d'État. La plus haute juridiction administrative demande à l'État de verser à Orange une somme de plus de 2 milliards d'euros. Hélène Philly, épilogue d'une bagarre judiciaire de plus d'une décennie.
L'affaire remonte à une quinzaine d'années. En 2005, Orange, alors France Télécom, est en pleine réorganisation interne. L'opérateur dissout une holding baptisée Cogecom, utilisée pour effectuer des acquisitions. Mais Bercy estime que le groupe n'a pas payé les impôts qu'il devait à l'issue de cette opération. Résultat, redressement fiscal, Orange doit régler une ardoise d'1,9 milliard d'euros au fisc. Un vrai marathon judiciaire débute ensuite, car Orange conteste. Le litige est complexe, les allers-retours avec la justice nombreux. La décision du Conseil d'État hier est donc une vraie victoire dont l'opérateur s'est immédiatement félicité. Au total, en tenant compte des intérêts, il estime que l'État va lui rembourser pas moins de 2,2 milliards d'euros. Un trou dans la caisse dont se seraient bien passées les finances publiques. A l'inverse, pour Orange, le chèque tombe à point nommé. Même si les entreprises télécom ne sont pas celles qui souffrent le plus de la crise actuelle, elles doivent faire face à des investissements importants, ne serait-ce que pour boucler le déploiement de la fibre.
Des finances publiques abondées par un plan de relance qui, en pleine crise sanitaire, ne bénéficie pas à tout le monde et certainement pas aux quartiers prioritaires. C'est le message envoyé par une centaine de maires et de responsables associatifs au président de la République via une lettre ouverte. Élus et travailleurs sociaux demandent qu'1% de ce plan de relance répondent aux urgences des quartiers et, en premier lieu, aux demandes d'urgence d'aide alimentaire, comme le souligne Catherine Arenoux, maire de Chanteloup-les-Vignes.
Le président de la République a dit quoi qu'il en coûte. Mais ce quoi qu'il en coûte doit toucher tout le monde. Or, on sait très bien, sur nos quartiers précaires, sur nos quartiers en politique de la ville, on sait très bien que si on ne cible pas volontairement, si on ne donne pas des obligations aux uns et aux autres, nous allons voir le train de la relance passer, il ne va pas s'arrêter chez nous. Si on ne dit pas 30%, donc ça veut dire 1 milliard, sur les quartiers politiques de la ville, pour l'emploi des jeunes. Parce que l'emploi des jeunes, ce qui est fait dans le plan de relance, n'a pas ciblé nos jeunes, ça ne touchera personne ici. Par exemple, sur le territoire de Chanteloup, on a mis en place, grâce à l'ESSEC, deux dispositifs extrêmement importants qui sont Trouve ta voie pour faire travailler les jeunes vers leur objectif professionnel et un autre qui s'appelle Une grande école, pourquoi pas moi. Bon, ça, c'est issu des territoires gagnants, du plan Borloo, c'est-à-dire qu'il y a des amitiés, il y a des confiances respectives qui se sont créées et qui ont permis de créer des solutions localement. Ce qu'on voudrait, c'est d'arrêter de faire des solutions localement, c'est de pouvoir les partager, qu'elles deviennent nationales.
Des solutions locales, eh bien, Magali est bénévole à l'association Mamama en Seine-Saint-Denis. Elle rebondit justement sur les propos de Catherine Arenoux, maire de Chanteloup-les-Vignes. Mamama livre aux mères seules et isolées des colis alimentaires et des produits d'hygiène de première nécessité.
Effectivement, là, les maires appellent à ce que l'État respecte ses engagements. Mais moi, j'aimerais bien aussi appeler les maires à respecter leurs engagements face à toutes les petites associations, parce qu'il y a effectivement, l'aide alimentaire d'urgence, elle est prise en charge en partie par des très grandes structures. Mais elle est aussi prise dans tous les quartiers populaires par des myriades de petits collectifs, de voisines qui aident leurs autres voisines, de petites associations comme la nôtre. Et ces associations-là ne sont pas toujours aidées par les maires qui peuvent faire des choses qui ne sont pas grand-chose, mais genre essentielles pour des petites associations. Prêter un local, prêter pendant quelques temps un véhicule pour faire transporter la nourriture qu'on collecte. Et en fait, la solidarité, elle se joue à toutes les échelles. C'est de la solidarité interquartier. C'est cette solidarité-là qui maintient en vie réellement plein de gens dans les quartiers populaires.
Des propos recueillis par Sarah Ders. Drame à n'en plus finir en Méditerranée centrale où hier près de 100 personnes sont mortes noyées au large de la Libye et un seul navire humanitaire est à pied d'œuvre, l'Open Arms. L'ONG a porté secours à 200 candidats à l'exil lors de 3 sauvetages, cependant que les tentatives de traversée se multiplient car les conditions maritimes sont bonnes. Isabelle Souquet a sollicité François Thomas, président de SOS Méditerranée.
Depuis 72 heures, les naufrages se multiplient en Méditerranée centrale. La situation est dramatique. Des témoignages sont terribles. Il y a 6 bateaux d'ONG bloqués en Italie actuellement pour des raisons administratives. C'est excessivement inquiétant. Une fois de plus, cela démontre que la notion d'appel d'air est complètement fausse. Il n'y a plus personne pour faire ces sauvetages. L'Open Arms, heureusement, a pu sauver quelques centaines de personnes et va pouvoir les débarquer en Italie. Mais les moyens sont totalement insuffisants aujourd'hui et il est urgent de pouvoir trouver des solutions pour libérer les navires des ONG et également que les États européens mettent les moyens eux-mêmes pour stopper ce drame humanitaire absolument abominable. En ce qui concerne SOS Méditerranée, notre navire, l'Ocean Viking, est bloqué depuis plusieurs mois en Italie, au sud de la Sicile. Nous faisons le maximum pour repartir. Parce que c'est urgent et que nous devons être là, nous devons, autant que faire se peut, arrêter ce drame humanitaire, si les autorités italiennes nous l'autorisent. Nous intervenons surtout en Méditerranée centrale, parce que c'est là la route migratoire la plus meurtrière du monde, au départ de Libye. Il y a d'autres départs de Tunisie, d'Algérie, du Sénégal, de Mauritanie, il y a des drames également côté Atlantique. La solution, c'est de mettre des moyens de sauvetage pour que ces personnes ne puissent pas se noyer. Le drame continue.
Voilà, François Thomas, président de SOS Méditerranée. Une pétition tourne sur le site change.org afin de convaincre les autorités italiennes et européennes de libérer les navires humanitaires à quai. Paris appelle à tout faire pour éviter l'escalade au Sahara occidental après le lancement d'une opération militaire par le Maroc et l'annonce par le mouvement indépendantiste Front Polisario de la fin d'un cessez-le-feu datant de 1991. C'est une bande sableuse de 3 km qui sépare le poste frontière de la Mauritanie au sud et le territoire du Sahara occidental sous contrôle marocain au nord. C'est là, point névralgique s'il en est, que des coups de feu ont retenti hier, réanimant ainsi un conflit de 40 ans d'âge. Au Mali voisin, l'armée française et son dispositif Barkhane. L'armée française, qui ne manque pas de communiquer les bilans de ses assauts lancés contre des effectifs djihadistes au Sahel, avec cette semaine des opérations qui, si l'on se fie aux informations livrées par l'état-major, ont causé des pertes significatives dans les rangs des groupes armés terroristes. Bonjour Bertrand Galichet.
Bonjour Mathieu.
Bertrand, la France envoie ainsi clairement un message à la junte militaire au pouvoir à Bamako.
Oui, un message extrêmement clair et puissant. Cette nouvelle opération révélée hier soir par l'état-major français a été menée jeudi à 180 km à l'est de Mopti, à proximité de la frontière du Burkina Faso. Après le repérage d'un campement suspect près de la localité de Niaki, une intervention militaire a été décidée. 4 Mirage 2000 venus de la base aérienne de Niamey ont opéré des frappes sur les installations des djihadistes. Parallèlement, 4 hélicoptères d'attaque Tigre et 3 hélicoptères de transport de troupes ont été envoyés sur place avec à leur bord des commandos de montagne. Les militaires au sol ont mené un combat d'environ une heure appuyés par les moyens aériens. Bilan, une trentaine de djihadistes tués, de l'armement et une vingtaine de motos saisies et détruites. Cette opération intervient 3 jours après l'élimination de Ba Ag Moussa, chef militaire et cadre opérationnel d'Al-Qaïda au Mali. La multiplication des frappes françaises s'inscrit aussi dans un contexte de tension entre Paris et le nouveau pouvoir de transition à Bamako. Le Premier ministre mis en place par la junte penche pour un dialogue avec les groupes armés, tandis que Paris s'oppose à une négociation incluant des terroristes maliens. Ces récentes opérations militaires françaises portent des coups sérieux aux groupes de soutien à l'islam et aux musulmans. Un mois après la libération de 4 otages, dont la française Sophie Pétronin, échangée contre 200 djihadistes qui étaient détenus dans les prisons maliennes, une contrepartie mal vécue par la force Barkhane, plusieurs des islamistes libérés ayant été impliqués dans des attentats ou des combats contre les militaires français.
Merci à vous Bertrand Galichet. En Éthiopie, 11e jour de conflit dans l'état du Tigré. Le pouvoir central a accusé ce matin les forces régionales d'avoir tiré des roquettes sur la région voisine Amara. Un conflit qui a déjà fait des centaines de morts et des milliers de déplacés qui ont trouvé refuge au Soudan. Le gouvernement fédéral mobilise ses soutiens et multiplie des collectes de sang. C'est un reportage de Noé Ochebodin dans le stade international de la capitale éthiopienne Addis Abeba.
La compresse encore fraîchement scotchée sur le bras, a dit Souha Chagué, tout sourire, vient de donner 300 millilitres de son sang. C'est sa façon de participer à l'effort de guerre, assure-t-il.
Je suis venu pour donner mon sang, mais je pourrais aussi donner de l'argent. Tous les moyens sont bons pour soutenir nos soldats sur le terrain.
Environ 2000 personnes font la queue autour des 9 tentes déployées pour l'occasion. Getaou Nassefa est étudiant, il a lui aussi répondu à l'appel.
Je suis très heureux de donner mon sang car nos soldats se sacrifient pour nous. Je leur suis très reconnaissant pour tout ce qu'ils font pour protéger mon pays.
Les collectes continuent aujourd'hui à Addis Abeba, dont Abraham Asrat est le directeur des relations publiques de la mairie. Pour l'occasion, l'événement est entouré d'un important dispositif de sécurité, nous confie-t-il.
Je n'ai pas peur personnellement, mais quelques personnes pourraient avoir peur. Ce n'est pas parce que les combats ont lieu dans le nord du pays qu'ici nous sommes en sécurité. Car lorsque le TPLF sera vaincu sur le front du nord, ils chercheront à exporter le conflit pour faire en sorte que le pays devienne ingouvernable.
Plus de 300 personnes ont été arrêtées ces derniers jours dans la capitale, toutes accusées de vouloir commettre des attentats.
Noé Hochet-Baudin à Addis Abeba.
La bulle économique, Marie Vienno.
Et aujourd'hui, la bulle économique décrypte l'accord trouvé hier par les pays du G20 pour la dette des pays pauvres.
Cette semaine encore, la manifestation organisée par les Angolais contre la pauvreté et la corruption a été réprimée dans le sang. L'Angola est un pays riche en ressources minières et pétrolières, mais la majorité de sa population vit avec moins de 2 dollars par jour. C'est un pays très endetté aussi. Comme 45 autres pays, l'Angola a demandé à bénéficier du moratoire accordé par les pays du G20 aux pays les plus pauvres en avril, ce qui lui permet de suspendre ce qu'il doit à ces pays pendant un an. L'Angola a aussi touché le plus gros prêt d'urgence débloqué par le FMI depuis la crise sanitaire et il négocie en ce moment avec la Chine, qui est son principal créditeur. On ne sait rien sur ces négociations, mais il y a, si on regarde le verre à moitié plein, un espoir qu'elle ne ressemble pas aux précédentes. Les pays du G20 viennent en effet de s'accorder sur un cadre commun pour les restructurations de dettes à venir et même la Chine a accepté ce cadre. Il impose aux pays qui demandent à renégocier leurs dettes de mettre tous leurs créanciers sur un pied d'égalité pour qu'aucun ne fasse plus de concessions qu'un autre. Voilà pourquoi l'accord trouvé par les pays du G20 est historique, s'enthousiasme Bercy. Aujourd'hui, la Chine est le premier créancier des pays pauvres et de l'Afrique en particulier. 63% des dettes dues aux pays du G20, selon la Banque mondiale, le sont à la Chine. Que Pékin s'associe à d'autres capitales alors qu'une crise de la dette se profile pour les pays du Sud, c'est une avancée. Mais cela paraît presque trop beau pour être vrai. Quoi ? Dorénavant, les négociations pour rééchelonner une dette seraient transparentes, les paramètres discutés conjointement, tous les créditeurs informés des discussions que mène un pays aux abois avec ses autres créanciers, le privé compris. On jugera sur pièce si on y arrive. D'ici là, il y a déjà de quoi voir aussi le verre à moitié vide. D'abord, tous les pays surendettés ne sont pas concernés par ce cadre G20. Seulement les pays les plus pauvres, les 73 déjà éligibles au moratoire d'avril. Exclus le Soudan, l'Érythrée, le Zimbabwe et la Syrie, car ils ne sont pas à jour de leurs paiements. Exclus les pays à revenus intermédiaires, même s'ils frôlent déjà la faillite, comme l'Argentine et le Liban. Avoir besoin de ressources financières, ce n'est donc pas le premier critère. Ensuite, le texte de l'accord lui-même soulève des doutes. On y lit que le document qui recensera les paramètres clés du cadre commun sera non contraignant juridiquement. Alors, de quel engagement parle-t-on ? Troisième limite, on ne sait pas encore qui suivra les accords passés par les pays du G20 avec leurs créditeurs pour vérifier que le cadre commun est bien respecté. La coordination affichée n'a pas de coordinateur pour le moment. Quant aux créanciers privés, ils détiennent plus de la moitié de la dette des pays du Sud, alors qu'ils soient associés au cadre commun, c'est une nécessité. Mais est-ce possible de le leur imposer ? Un gouffre risque de séparer les annonces du G20 de la réalité. Depuis le début de la crise sanitaire, les créanciers privés se sont d'ailleurs montrés peu enclins aux concessions. Ils viennent de refuser les demandes de moratoire que leur avaient fait la Zambie et le pays est donc officiellement
aujourd'hui en défaut de paiement. Depuis la mi-octobre, 500 organisations font campagne pour que la dette des pays du Sud soit annulée. On parle de 3 000 milliards de dollars, alors que les pays riches ont débloqué 11 000 milliards depuis le début de la crise sanitaire, explique un membre du comité pour l'abolition de la dette du tiers-monde. Et de plaider pour qu'une instance internationale, telle que l'ONU, et non le G20, s'empare de cette question, car la dette, écrit un militant, est une pandémie qui tue les pauvres. S'il y avait urgence avant, que dire dorénavant ?
Merci à vous, Marie Viennot. Ainsi se referme la bulle économique de ce samedi. La météo de l'après-midi sur la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France. Temps faiblement perturbé avec un ciel souvent très nuageux et de petites pluies, un peu plus soutenues sur le Finistère. Des pluies plus intenses cette fois sur les Cévennes. Ailleurs, le temps est calme et plutôt bien ensoleillé. Ce journal a été préparé avec Julien Loquet à la technique, Ludovic Auger.